Bonsoir à tous. 11 agents de l'éducation nationale se sont suicidés depuis la rentrée de septembre. Les syndicats ont réclamé des mesures aujourd'hui lors d'une réunion d'urgence. Le reportage d'Hakim Kasmi dans un instant. Le gouvernement hausse le ton sur l'immigration en durcissant l'accès aux soins pour les étrangers. Nous ferons le point avec Simon Le Baron. Le Parti Socialiste ne manifestera pas dimanche à Paris contre l'islamophobie. L'initiative divise la gauche et nous en parlerons avec notre invitée, la sénatrice PS, Laurence Rossignol. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour agression sexuelle après les accusations d'Adèle Haenel. L'actrice met en cause le réalisateur Christophe Ruggia, mais elle ne veut pas porter plainte. C'est un dossier suivi par Ariane Grissel. Les chiffres sont effrayants. Durant l'année scolaire 2018-2019, 58 agents de l'éducation nationale se sont suicidés. Une statistique révélée aujourd'hui lors d'un CHSCT extraordinaire. C'est à la demande des syndicats que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est réuni. À l'ordre du jour, la souffrance au travail au sein de l'éducation nationale. Un mois et demi après le suicide de Christine Renon, directrice d'école à Pantin. Et la situation ne s'améliore pas à Kinkasmi.
Avec déjà 11 suicides d'agents de l'éducation nationale depuis la rentrée de septembre, le malaise reste profond chez les enseignants. Un malaise que semble avoir entendu le ministère, qui s'engage désormais à communiquer aux partenaires sociaux le nombre de suicides chaque année, ce qui est une première. Il propose également un meilleur accompagnement des personnes avec de la prévention et de la formation pour lutter contre les suicides. Des médecins supplémentaires seront également recrutés dans l'éducation nationale, des mesures très attendues par les syndicats qui demandent aussi à ce que des études d'impact soient réalisées pour étudier les conséquences que pourraient avoir les réformes. Hervé Moreau, représentant de la FSU au CHSCT.
Adopter un avis des représentants du CHSCT ministériel pour éviter finalement que le sens du travail se perde, que les agents soient mis en difficulté par les réformes ou par les consignes qui leur sont données.
Des réformes de plus en plus source de mal-être chez les enseignants, estime Françoise Popineau, secrétaire générale du SNUIPP.
Très souvent, l'enseignant il est au fait des besoins de ses élèves, il voit ce qui serait le meilleur pour ses élèves, ce qui serait le mieux pour son école, et il reçoit des consignes qui sont en contradiction avec ce qui peut être le bien des écoles. Cette mise en tension entre ce qu'ils pensent bon pour leurs élèves et qu'il faudrait faire, et ce qu'on leur demande de faire qui est à l'encontre de cela, c'est ça qui les met souvent en grande souffrance.
Autant de mesures qui ne devront pas être un simple exercice de communication, préviennent déjà les syndicats qui doivent se retrouver pour un nouveau CHSCT le 26 novembre prochain.
Hakim Kasmi, merci. Le gouvernement a présenté ce matin une vingtaine de mesures qui définissent sa nouvelle politique d'immigration. L'accès aux soins sera plus compliqué pour les sans-papiers et les demandeurs d'asile. Par ailleurs, des quotas d'immigrés vont être mis en place pour les filières en tension. Des mesures annoncées à Matignon par Édouard Philippe, entouré pour la circonstance d'une douzaine de ses ministres. Le reportage de Simon Le Baron.
Reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Voilà le sens de ces mesures, selon le Premier ministre, qui accrédite au passage la vision de la droite et du RN d'une immigration non maîtrisée.
Reprendre le contrôle, c'est faire en sorte que lorsque nous disons oui, ce soit vraiment oui, et que lorsque nous disons non, ce soit vraiment non. Je crois profondément à l'idée d'un juste équilibre entre les droits et les devoirs.
Au rayon fermeté, donc, l'ouverture de 3 nouveaux centres de rétention administrative et le démantèlement de campements de migrants illégaux, notamment dans le nord-est parisien. Comme attendu, le gouvernement confirme aussi l'instauration de quotas en matière d'immigration économique. Là encore, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, défend une position d'équilibre.
Notre priorité, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi et aux jeunes de notre pays d'accéder à tous ces emplois. Mais néanmoins, l'expérience prouve que même en période de plein emploi, comme en chômage élevé, il existe toujours des postes vacants.
Donner du travail aux Français tout en permettant au secteur en pénurie de trouver de la main-d'œuvre. Et puis l'accès aux soins sera bien durci pour les étrangers, délai de carence de 3 mois pour les demandeurs d'asile et contrôle renforcé sur l'aide médicale d'État. Rassurer les citoyens tout en ayant le courage de ne rien céder au populisme, voilà encore, d'après Édouard Philippe, la philosophie générale. C'est bien la volonté de répondre au discours du Rassemblement national qui sous-tend l'action du gouvernement.
Simon Le Baron, merci. S'agissant du regroupement familial, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, affirme qu'il n'est pas question d'y toucher. Mais nous luttons contre toutes les fraudes, y compris au sein du regroupement familial, ajoute le ministre. Combien seront-ils dimanche à Paris à marcher contre l'islamophobie? Plusieurs centaines de personnalités ont signé l'appel à manifester après la polémique sur les mères voilées et les diatribes d'Éric Zemmour. Mais l'initiative est loin de faire l'unanimité, surtout à gauche. Le Parti Socialiste n'ira pas manifester dimanche, contrairement aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et à la CGT qui apportent leur soutien à ce rassemblement. Nous sommes en ligne avec la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, ancienne ministre de François Hollande. Bonsoir.
Bonsoir.
Laurence Rossignol, pourquoi le Parti Socialiste refuse de s'associer à cette manifestation contre l'islamophobie, alors que vous-même, au PS, vous dénoncez régulièrement la stigmatisation des musulmans?
Parce que cette manifestation est partie d'un appel qui lui-même a été initié par le CCIF, c'est-à-dire le Comité conçu contre l'islamophobie en France, qui est une structure qui a été créée en 2004 après l'adoption de la loi interdisant les signes religieux dans le milieu scolaire, exigeant que des élèves, qu'ils viennent à l'école, sans signes religieux ostentatoires. Et cet appel, en fait, manipule plusieurs choses. D'un côté, le légitime, nécessaire et indispensable rassemblement contre les actes racistes à l'encontre des musulmans, que ce soit des paroles fréquentes, les stigmatisations dont les femmes sont victimes, incontestablement, ce qui s'est passé à Dijon, et bien entendu le passage à l'acte qui a été celui de l'attentat contre la mosquée. Mais cet appel est un appel qui crée de la confusion, c'est-à-dire qu'il entraîne les antiracistes que nous sommes à gauche, quel parti socialiste, sur un autre terrain qui est le terrain de l'islam politique. Parce qu'un appel qui critique la République en indiquant que la République comporterait des lois racistes met en cause non pas le racisme qui peut exister dans la société française, que personne ne nie, mais met en cause la laïcité de la République. C'est quoi ces lois racistes qui sont identifié dans l'appel.
Laurence Rossignol, c'est notamment justement le CCIF, ce collectif contre l'islamophobie en France, qui vous pose problème?
Le CCIF et de nombreuses autres personnalités, mais ce n'est pas qu'à moi, ou ce n'est pas qu'aux socialistes qu'il pose problème. Je vois par exemple que le Parti communiste non plus n'appelle pas à cette manifestation et n'est pas signataire de l'appel. Je vois que Yannick Jadot, qui l'avait signé, dit maintenant qu'en fait il n'avait pas bien lu et qu'il est visiblement gêné par le voisinage qu'il y a dans les initiateurs de cet appel. J'ai vu aussi que François Ruffin disait également que lui-même n'irait pas et qu'il faisait autre chose au moment où il a signé l'appel. Caroline De Haas, militante féministe, a dit qu'elle participerait au rassemblement mais qu'elle retirait sa signature de l'appel parce qu'elle ne voulait pas co-signer un appel avec des hommes en particulier qui se sont fait connaître par leurs propos violemment antiféministes. Et dans cet appel, il n'y a pas de volonté de rassembler contre le racisme. Pas un mot, par exemple, sur l'émancipation des femmes. Pas un mot sur ce que subissent des musulmans, des femmes musulmanes dans des pays musulmans. Pas un mot pour soutenir les femmes qui posent leur foulard, par exemple, en Iran. Il n'y a pas de volonté de rassembler. Il y a volonté d'entraîner la gauche sur un autre terrain que celui de l'antiracisme et de la République, qui est le terrain de l'islam politique.
Est-ce que vous contestez...
Nous ne pouvons pas participer à ça.
Est-ce que vous contestez ce concept d'islamophobie qui, rappelons-le, n'est pas un terme juridique?
Bien sûr que ce n'est pas un terme juridique. Le mot pose problème, évidemment, parce que si l'islamophobie n'était que le racisme contre les musulmans, ça ne poserait pas problème. Nous serions tous d'accord. Mais dans l'islamophobie, il y a aussi en creux autre chose, c'est l'interdiction de critiquer une religion. En l'espèce, la religion, l'islam. Et puis, dans l'islamophobie, on se rappelle que c'est le mot qui a été utilisé pour qualifier les caricatures de Charlie Hebdo, qui ont été qualifiées d'islamophobes. C'est le mot qui est utilisé pour qualifier ceux qui seraient supposés blasphémer, se moquer du prophète des uns des autres. Or, dans les traditions de la République française, chèrement acquises, il y a aussi le droit au blasphème, le droit de critiquer les religions, le droit de pratiquer une religion, la confiance dans la foi et la manière dont chacun peut la vivre, mais aussi, pour tous les autres, le droit d'interroger, de critiquer et même aussi de se moquer des religions, ce qu'on ne manque pas de faire en France depuis un siècle.
Dernière question, Laurence Rossignol, très rapidement, on voit bien que la laïcité, l'islam, ce sont des sujets qui divisent aujourd'hui la classe politique et notamment la gauche. Comment dépasser ces divisions, selon vous ?
Pour dépasser ces divisions, et il faut peut-être adopter un principe assez simple. C'est on ne combat pas l'extrême droite avec les islamistes et on ne combat pas les islamistes avec l'extrême droite. Savoir avec qui on s'allie et sur quelles valeurs. Nos valeurs, c'est les valeurs de la République, les valeurs de l'antiracisme et les valeurs de la laïcité. Autour de ça, le 11 janvier, en 2015, on a pu rassembler le plus grand nombre. Je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, retrouver cet esprit de concorde, cet esprit républicain qui nous avait permis, après les attentats de janvier 2015, d'être forts, d'être unis. Et surtout, je rappelle que la France, malgré ce qu'elle a vécu, s'est toujours très bien tenue après ces attentats.
Merci.
Il n'y a pas eu de dérapage.
Merci beaucoup Laurence Rossignol, sénatrice socialiste. Merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Rachida Dati a été désignée ce soir candidate du parti Les Républicains pour les élections municipales de mars prochain à Paris. Une bataille qu'elle va placer sous le slogan « Engagé pour changer Paris ». La Commission nationale d'investiture LR a comme prévu adoubé l'ancienne garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati qui affrontait comme seule rivale Marie-Claire Carrère, conseillère LR du 14e arrondissement. Rachida Dati s'est aussitôt réjouie de cette désignation, assurant que sa campagne aurait comme priorité la sécurité, la propreté, les familles, l'écologie et la santé. La justice s'empare des accusations d'Adèle Haenel. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour agression sexuelle après les déclarations de l'actrice relayées par Mediapart. Adèle Haenel qui accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel permanent alors qu'elle était adolescente. C'est avec Christophe Ruggia qu'elle a tourné son premier film Les Diables à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui âgée de 30 ans, Adèle Haenel ne veut pas porter plainte car elle ne fait pas confiance à la justice qui ne serait pas représentative de la société. Ariane Grissel, le parquet de Paris en a décidé autrement avec l'ouverture de cette enquête.
Enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité et pour harcèlement sexuel. Adèle Haenel décrit à Mediapart des attouchements répétés sur les cuisses, le torse, des baisers forcés dans le cou, souvent dans l'appartement du réalisateur.
Si la personne est soumise à des pulsions et se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec cette histoire d'amour et comment je fais ?» Il ne met pas en place un système pour m'avoir sous le nez tout le temps. Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit d'un homme adulte de presque 40 ans qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille et qui essaye de la tripoter et qui ne fait pas que essayer d'ailleurs.
L'actrice va maintenant être invitée à re-raconter ses faits, cette fois aux enquêteurs comme témoin. Christophe Ruggia aussi, bien sûr, va être entendu. Lui, il conteste catégoriquement ses faits. L'ouverture de cette enquête est donc même une bonne chose, à en croire son avocate Fanny Collin.
C'est la garantie pour chacune des parties de pouvoir être entendue sereinement dans un cadre judiciaire, en dehors du brouhaha médiatique et des tribunaux des réseaux sociaux qui ont, semble-t-il, déjà jugé coupable Christophe Ruggia. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le contexte actuel, Christophe Ruggia ne peut pas s'exprimer parce que sa voix est inaudible.
Il y a quand même toujours ce soir une inconnue de taille, savoir si les faits sont prescrits ou non, c'est très complexe. La justice doit encore se pencher sur cette question. Si ce n'est pas prescrit, il peut y avoir ouverture d'une information judiciaire, éventuellement une mise en examen. Si c'est prescrit, l'ouverture de cette enquête peut susciter d'autres témoignages ou tout simplement permettre aux différents acteurs du dossier d'être entendus et pour certains d'être soulagés d'avoir été écoutés.
Ariane Grissel, merci. Et dans un droit de réponse transmis à Mediapart, Christophe Ruggia nie toute agression, mais le réalisateur reconnaît tout de même une erreur, celle d'avoir joué les Pygmalions. Et pour cela, Christophe Ruggia demande à Adèle Haenel de le pardonner. La famille de Catherine Deneuve se veut rassurante ce soir. L'actrice a été hospitalisée en urgence ce matin à Paris après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Ses proches parlent d'un AVC très limité et donc réversible selon leurs termes. Catherine Deneuve, âgée de 76 ans, ne souffrirait d'aucun déficit moteur. Mais elle doit maintenant se reposer. C'est ce qu'indique ce soir son agente Claire Blondel dans un communiqué transmis à l'AFP. Aux États-Unis, à un an de la prochaine présidentielle, se tenait hier des élections locales dans plusieurs États. Si les républicains de Donald Trump l'emportent dans le Mississippi, ils enregistrent deux revers importants. Le premier dans le Kentucky, où selon des résultats encore provisoires, c'est un démocrate qui décroche le poste de gouverneur. Et dans l'État de Virginie, sur la côte Est, les deux chambres passent dans le camp démocrate. Retour en France avec le temps demain, perturbé et pluvieux sur les trois quarts du pays, avec de la neige en montagne. Un ciel plus calme sur les régions méditerranéennes. Les températures minimales seront comprises comprise entre 4 et 12 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre évoluera entre 8 et 17 degrés et même 20 degrés en Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.